Bonjour et bienvenue. Parmi les incontournables dans le monde de l'humour, il y a Fernand Reynaud. Il est vrai que ses sketchs sont d'un autre temps et que l'artiste mort au volant de sa Rolls-Royce à l'âge de 47 ans le 28 septembre 1973 a, par la même occasion, laissé sa place à d'autres humours. C'est vrai que le regard que l'on avait sur la société dans les années 50 ou 60 n'était pas du tout le même que celui de Coluche ou plus tard que Bigard, Jamel et compagnie. Mais je me suis toujours intéressé à ce comique. En plus, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes proches de lui, dont Pascal Reynaud, son fils, qui gère aujourd'hui le patrimoine. Vous allez entendre également Alain Morisot, qui a été le pianiste de Fernand Reynaud durant 2 ans, et d'autres amis, dont Maryse, la femme de Philippe Gildas, qui a travaillé avec Fernand Reynaud sur Europe 1.
C'est le plombier. Qui serait ?
Ça va pas la vieille, non ?
C'est le plombier. Qui serait ?
Oh. Ouais. Les jeunes, ils ont raison de dire qu'il y a des croulants dans la vie. C'est plus une croulante, la mémé. Alors, mon pote, t'es pas coté à l'Argus.
C'est la tête, c'est la tête.
Qui c'est?
Oh, hey, ça va, non? C'est le plombier. C'est le plombier. On m'a téléphoné il y a une demi-heure pour boucher le trou de votre peignoir.
Les archives du rire.
Pascal Reynaud est musicien. Il a accompagné son père sur scène lorsqu'il avait 11 ou 12 ans. Compositeur pour piano et orchestre, il a aussi enregistré des disques qui se sont vendus, entre autres, au Japon et en Allemagne. Mais sa vie avant tout, c'est la gestion des œuvres de son père. Un père qu'il adorait par-dessus tout, dans la vie et dans son métier d'humoriste. Il faut rappeler ici que Fernand Reynaud avait tout de même un humour universel qui touchait tout le monde. Pascal Reynaud.
C'est le cas de le dire parce que toutes, pratiquement, ces histoires les plus populaires sont passées dans le langage de tous les jours. Parce que c'était des histoires qui étaient beaucoup travaillées. Il draguait beaucoup, notamment au niveau populaire, c'est-à-dire dans la France profonde, dans la Suisse profonde, dans la Belgique profonde. Et il se basait toujours sur des personnages simples, du terroir, des gens vrais. Et l'autre jour, je suis allé au musée Marmottan et j'ai vu que Monet faisait la même chose dans ses portraits. J'ai beaucoup vu chez les grands hommes, les grands créateurs et les grands créatifs aussi, des sujets au personnage le plus simple.
Mais on disait que Fernand Reynaud était très populaire, non pas populo, mais populaire, oui. Qui faisait rire tout le monde, toutes les classes, autant l'ouvrier que le patron d'entreprise, parce c'était sa force.
Parce qu'il n'était pas méchant, il ne faisait pas d'agressivité, il essayait au maximum de ne pas attaquer une religion ou même un peuple ou alors une profession plutôt qu'une autre. Les douaniers, bon, il s'était servi un petit peu des douaniers, c'est vrai. Mais enfin, en général, ça fait partie aussi du domaine de l'humour. Les gens en uniforme, on aime bien les prendre en dérision.
Moi, j'aime pas les étrangers. Non, parce qu'ils viennent manger le pain des Français. Ouais. J'aime pas les étrangers, c'est vrai, c'est comme ça, c'est physique. Et c'est curieux, parce que comme profession, je suis douanier. On devrait être aimable et gentil avec les étrangers qui arrivent, mais moi, j'aime pas les étrangers. Ils viennent manger le pain des Français. Et je suis pas un imbécile, puisque je suis douanier. Je peux porter, je peux écrire ce que je veux sur des papiers, j'aurai jamais tort. J'ai le bouclier de la loi, puisque je suis douanier. Je peux porter plainte contre n'importe qui, je suis sûr de gagner en justice. Je suis pas un imbécile. Vous voyez, je suis français, moi, ouais, et je suis fier d'être français. Mon nom, moi, je m'appelle Koulakiastensky. Du côté de ma mère. et Piazzano Venditti du côté d'un copain à mon père.
Alors Fernand Reynaud, c'était un artiste pointilleux, au caractère parfois difficile. Hein. Son travail sur ses sketchs était vraiment très important.
C'est la raison pour laquelle on entend beaucoup, on ressent beaucoup de maturité dans la structure de ses sketchs. Parce qu'il remettait en question régulièrement. À chaque théâtre, il remettait encore en question la structure, les personnages, il les peaufinait. C'était un travail de sculpteur.
Papa ! Je voudrais te demander... Les sous-marins atomiques, comment ils peuvent fonctionner dans l'eau? Parce qu'il paraît que d'un côté, il n'y a pas de moteur diesel, il n'y a pas de moteur électrique, on en parlait justement encore à la récréation. Comment ils peuvent fonctionner dans l'eau, dit papa, les sous-marins atomiques?
C'est étudié pour.
Je comprends bien que c'est étudié pour, seulement, moi je n'ai que 9 ans et demi, et avec les nouvelles méthodes d'instruction scolaire, je ne sais pas grand-chose. Mais je crois savoir comme le commun des mortels, c'est-à-dire n'importe quelle andouille sur Terre, que si l'atome est la plus petite partie d'un corps simple, et la molécule, la plus petite partie d'un corps composé. Comment se fait-il que l'on puisse désintégrer un atome? Non pas dans une pression atmosphérique. Ne nous leurrons pas. Mais dans une pression hydraulique. Qui dit hydraulique dit H2O, deux parties d'hydrogène, une partie d'oxygène. Ah, Einstein a dit que lorsque nous avons descendant la théorie de Joliot-Curie, au centimètre...
T'en as pas longtemps à me saouler avec tes salades. Hein? Qu'est-ce que je sache, moi, les atomes, les molécules, comment que ça fonctionne? Hein? J'ai déjà du mal à rouler en vélo, moi, là. Qu'est-ce que je sache, moi, les atomes, les molécules, comment que ça fonctionne?
J'aurais tant aimé avoir dans mon foyer... un réconfort moral. Je n'ai que tribulation. Lorsque Einstein a dit...
Fous-moi la paix avec Einstein. Je veux pas d'histoire avec les voisins.
Disiez dans une émission qui était consacrée à votre père que c'était un bon papa, que c'était l'esprit de famille devait être...
Ah oui, d'ailleurs, il n'a pas divorcé. Il s'était marié en 55, il a eu son accident en 73, donc il n'a pas divorcé.
Ils ont joué des pièces ensemble, entre autres Auguste.
De Raymond Castan.
Oui.
Et c'est amusant parce que ma mère, de temps en temps, elle rentrait sur scène. Elle ne se souciait même pas si elle se souvenait des répliques ou non, puisque de toute façon, son mari était à côté, et quand elle avait un trou de mémoire, c'est lui qui balançait la réplique.
Oui.
Et elle rentrait parfois en trop bonne confiance.
Comment vous appelez-vous déjà?
Roussel. Auguste. C'est pas que mon chef soit méchant, ça m'a les service, vous comprenez? Puis dans le fond, il a raison d'être un peu sévère, parce que après, les employés en abusent. Alors, comme j'avais dit que j'arriverais avant midi, comme ça, je serais prêt.
À vos souhaits.
Merci. Je prendrai un grand garde-descendant.
Comme ça, votre chef ne vous fera pas de reproches.
Certainement.
Ça va comme ça?
Je suis signé, reconnu. Que monsieur Roussel s'est courageusement jeté. C'est gentil d'avoir marqué courageusement.
Mais voyons, ça ne coûte pas plus cher.
Oui. D'autant plus que vous ne le pensez pas. Vous mettez 2 R ou courageusement?
Il faut pas?
Moi, j'en mets qu'un. Dans la vie, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut.
Voilà.
Je vais être encore marqué au tableau de service. Acte de probité de civisme du personnel. J'ai déjà été affiché une fois. Pour le coup du portefeuille. Et puis le soir même, on m'a enlevé. À cause de la perte du client. Et maintenant, je vais être affiché pour un faux sauvetage. Je peux pourtant pas leur expliquer que c'est de la mise en scène.
Il vaut mieux pas, non?
Comprendrait pas.
Non.
Voilà. Je m'excuse de vous avoir sauvé la vie.
Les archives du rire.
Le mariage de Fernand Reynaud et René Caron a lieu en 1955. Parmi les témoins et amis de Fernand, il y avait Jean-Marc Thibault et Roger Pierre.
Oui, les deux témoins à l'église.
Oui.
Parce que les témoins à la mairie étaient Jean Neuin et André Leclerc. Et entre la mairie et l'église, il y avait à peu près 800 mètres. Fernand Reynaud avait perdu les alliances. Et je suis allé, moi, chez un bijoutier, avec Fernand Reynaud, acheter à la va-vite deux alliances. Alors, il y en a pris une qui lui allait à lui, et puis une qui aurait dû aller à sa femme. Et alors, on est rentré en trombe dans l'église. Le prêtre commençait déjà à s'inquiéter. La mariée était toute seule, assise au milieu de l'église. Et Reynaud m'a dit, Roger, prends les alliances et va les porter à la sacristie. Et je dis aux enfants de cœur, le plateau des alliances. Et je lance les alliances dessus. Il y en avait déjà deux. C'est-à-dire que quand Reynaud s'est marié, le prêtre a présenté un plateau avec quatre alliances. Alors, voyez-vous le sketch de quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises. Alors, toute l'église riait. Et ce qui a été charmant, c'est qu'à la sortie de l'église, les orgues ont joué les marches nuptiales. Et la marche nuptiale s'est transformée quand Reynaud était sur les marches extérieures en « T'es un peu belle, mignonne, t'es balancée comme une sirène ».
Ensuite, le mariage s'est passé aux Trois Baudets, c'est ça? Parce que c'était un théâtre important pour Fernand Reynaud.
Ah oui, c'est là où il avait débuté.
Oui.
Vous savez comment il a débuté? Il a remplacé Christian Mairy qui était parti en vacances. Et le patron lui avait dit « Fais le tour de Christian Mairy ». Ce qui a créé ce que tu as déjà. Et si vous voulez, il a fait un triomphe l'été. Et il est resté après aux Trois Baudets. Et Mairy a dû changer de tour.
Jacques Canetti, directeur des Trois Baudets à Paris, avait donc engagé Fernand Reynaud. Il nous raconte aussi que parfois le caractère de l'artiste pouvait lui jouer des tours.
Moi, j'ai découvert ça autrement. J'avais engagé Fernand Reynaud à la suite d'une audition. Et puis, c'est un garçon extrêmement coléreux qui a eu des mots avec ma caissière. Je lui ai dit, mon vieux, tant que je n'avais pas fait des excuses, je ne mettrai plus les pieds au théâtre. Ça a duré un an. Et puis un jour, je rencontre Fernand Reynaud à ses pénaux, Champs-Élysées. Il me dit, vous savez, je ne sais pas comment faire, j'aimerais bien aller rencontrer votre caissière. Je dis, mon vieux, c'est facile, prenez un bouquet de fleurs ou une boîte de bonbons et puis allez lui dire bonjour. Et alors il me dit, vous me reprendrez alors? Je dis, je vous reprendrai. Ça s'est passé comme ça.
Qu'est-ce que vous voulez? J'aurais voulu avoir le 22 à Agnières, s'il vous plaît. Pourquoi pas y aller en vélo, non? Ah non, le central. Comment vas-tu, Christiane? Où c'est que t'as été danser samedi? Et ta sœur? Elle est malade? Oh, ben tant mieux, tant mieux, tant mieux. Elle est aux assurances sociales. Ah ben comme ça, elle pourra aller danser toute la semaine. Dis donc, je me rappelle même plus pourquoi je te téléphone. Ah oui, dis donc, qu'est-ce que vous voulez, où, là?
Je voudrais le 22 à Agnières.
Ah, donc tu me passes le 22 à Agnières. Au revoir, Bouchon. Au revoir. Au revoir.
Merci madame. Vous pensez que ça va être l'or? J'étais avec mon vélo là, puis j'ai crevé en venant. Alors j'ai dit, tiens, je vais donner un coup de fil, comme ça va m'avancer.
Les archives du rire.
Fernand Reynaud connaissait bien la Suisse, il y venait souvent et je crois que le public qui l'a vu sur scène en garde un très grand souvenir. Lorsqu'il venait à Genève, il y croisait volontiers ses amis Claude Selva, Bob Barbet, Jacques Ferry ou Risset Barrier. Eux me parlaient du souvenir de Fernand Reynaud lors d'une émission enregistrée à Genève.
C'est un type merveilleux parce qu'il venait chaque fois, chaque année, il venait nous voir à la revue. Mais c'est emmerdant aussi quand il était dans la salle parce qu'il riait tellement fort.
Oui, oui. Oh,
il était avec son manteau, il se couvrait avec son manteau, t'entends.
Non,
écoute, on ne regardait plus, et Fernand, mais il ne faisait pas exprès, mais ça faisait rire les accents.
Les accents surtout.
Ça faisait rire surtout quand il y avait Chouchou, enfin Lauriac, et Joe qui dansaient. Les deux, ça faisait toujours rire aussi, ça. Alors, c'est horrible, ils ne se cachaient pas qu'on le reconnaisse, mais c'était pire. Tu vois, il y a un type, un manteau, un poil de chameau comme ça qui arrivait. Il arrivait dans les loges, après il nous félicitait. On ne pouvait pas lui dire, dis donc, mais t'es fou, bien quoi. Mais il était super, ce gars. Mais alors voilà un angoissé alors.
Bien sûr.
Voilà un type qui était angoissé avant d'entrer sur scène. Fou toujours à, alors lui alors toujours à trouille. Sa trouille à lui c'était de plus faire rire. Mm-hmm. C'était son angoisse de ne plus faire rire les gens.
Ah bien quand il y a quelqu'un qui riait pas dans la salle, il était pas content.
Ah il est fou, il le voyait tout de suite.
Ouais.
Ou bien quelqu'un qui mangeait un bonbon. Mm-hmm. Tu sais, on entendait le bruit du papier.
Tu sais ce qu'il faisait Fernand Reynaud?
Hein?
Quand il arrivait dans le gala comme ça et qu'il demandait tout de suite, est-ce que vous vendez des friandises dans la salle? Et il disait, ben oui, à l'entracte, on vend des trucs. Il faisait venir l'ouvreuse, il achetait tout. Tout ce qui était cellophane, tout ce qui était chocolat. Il achetait, moi, vous me donnez tout ça, je l'achète. De façon qu'elle ne distribue rien, pas de cellophane dans la salle. Ah, il achetait tout.
Ah, je me souviens de la première de l'Olympia, c'était en 71, je crois.
Pascal Reynaud.
On avait répété, moi j'étais mort de trac, j'avais 11-12 ans, devant 1500 personnes, c'est immense. Et puis, il y a une femme au premier rang qui bouffait des bonbons. Et ça faisait scritch, 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 et dans le silence, c'est terrible. Ouais. Et tout d'un coup, il dit, bon Pascal, arrête-toi, il y a une femme qui mange des bonbons devant. Voilà. Mais où vais-je donc reprendre? J'étais perdu. Puis ça a duré, je sais pas, 15 secondes. La femme s'est immédiatement arrêtée. Mais on doit pas se permettre quand même. Et il avait raison. Hein. Alors là, il avait raison. Et après que le silence soit revenu, j'ai repris le piano calmement. De toute façon, il se serait collé. Il avait tellement de métier. C'est les gens très doués et qui en plus bénéficient d'une très grande expérience. Travailler avec eux en scène, c'est faramineux. C'est fabuleux. C'est un grand cadeau professionnel. Alors, comme il disait, on est en scène, c'est un match de boxe. Si on s'arrête, les gens ne rient plus. Comme il disait, il ne faut pas trop rire en scène. L'artiste ne doit pas rire en scène. Parce qu'il parlait de cette anecdote, il avait vu un film avant-guerre, et chaque fois que les clowns en scène, pardon, sur l'écran, riaient, le public s'arrêtait de rire. Et lorsqu'il ne riait plus, le public riait à nouveau. Et vice-versa.
Et alors, parmi tous ceux qui ont travaillé avec Fernand Reynaud, il y a Alain Morisot. Il a été son pianiste durant 2 ans. Beaucoup de souvenirs qu'Alain Morisot nous racontait en 1994.
Oui, j'ai accompagné Fernand Reynaud en 1971 puis en 1972. Parce qu'en fait, c'était assez fortuit la manière dont ça s'est fait. À l'époque, il avait un pianiste avant moi qui s'appelait Jean Schubert, qui vient d'ailleurs du reste d'écrire un livre sur lui. Et puis, à un moment donné, je crois que Fernand en avait ras-le-bol de la femme à Schubert, qui était tout le temps là, et puis vraiment, pour finir, il en avait ras-le-bol, parce qu'elle était un petit peu du genre collant, d'après ce que j'avais cru comprendre. Ce qui fait qu'un jour, il s'est séparé de Schubert, mais il a besoin d'un pianiste. Et comme son impresario exclusif était Jacques Iffard, qui est à Genève, et pour lequel je travaillais pour accompagner des spectacles à droite à gauche, il m'a demandé si ça m'intéressait d'accompagner Fernand. Alors moi, j'étais étudiant à l'époque, mais bien sûr que ça m'intéressait, parce que c'était d'abord, c'était vraiment la grande vedette comique de l'époque, et puis en plus c'était quelqu'un qui était extraordinaire dans la connaissance du public, ce qui fait que je suis parti avec lui pendant 2 tournées. Et en fait, quand on accompagne Fernand Reynaud, il n'y avait pas grand chose à faire. T'es assis au piano et puis tu fais des touches à la fin des sketchs, ou bien quelques illustrations musicales, ou bien des sketchs mimés, donc aventure au bar, dans le bar, des choses comme ça. Alors voilà. Alors là, on avait un accompagnement, mais c'était plutôt une complicité. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, moi, ce que j'ai pas vraiment besoin de pianiste, j'ai quelqu'un qui rit. Alors je veux que tu te marres. J'avais pas besoin de me forcer, je veux dire, tous les soirs, je me marrais. Et pour finir, on a eu une super complicité. Et je me souviens très bien que, en fait, je venais de sortir mon premier disque et il a, en fait, sacrifié un de ses plus beaux sketchs qui était Heureux, l'histoire du cantonnier, Heureux, pour en faire, pour me mettre en valeur. Du reste, la télévision romande avait enregistré le spectacle et ce sketch est dans le spectacle où, en fait, il commençait son sketch en disant « Heureux, je suis un cantonnier ». Et moi, je jouais du piano et je jouais de plus en plus fort. Et lui, on lui baissait son micro, ce qui fait qu'il devait crier. Puis, alors, il se retournait en me regardant en disant « Mais arrête, tu vois bien que je parle ». Et moi, je ne m'occupais pas, je jouais de plus en plus concertant. Et pour finir, il criait, et puis il arrêtait, il avait ras-le-bol. Et puis il venait vers moi, et puis il m'écoutait finir, et il m'applaudissait. Puis ensuite, il me prenait sur scène à côté de lui, il me disait, ah ben voilà, vous êtes suisse, comment vous appelez, Morisseau, ah ben voilà, puis après que vous avez fait un disque, est-ce qu'on peut écouter? Et il tirait le piano avec lui-même au milieu de la scène, il me disait, ben voilà, on vous écoute. Il s'en allait, je jouais mon morceau. Et il revenait, et il me disait, ben voilà. Plus tard, comme ça, quand vous serez une grande vedette, que tout le monde vous connaîtra, ben on dira, ben nous, on l'avait connu avant tout le monde, parce qu'il était pianiste à Fernand Reynaud. Et ce qui est dingue, il me disait, je vous remercie beaucoup de m'avoir engagé dans votre programme. Et deux choses qui sont passées, c'est plus tard, quand ça a commencé à pas trop mal marcher, beaucoup de gens m'ont dit, on vous avait vu avec Fernand Reynaud, on était les premiers, ce qu'il m'avait dit. Et 10 ans plus tard, j'ai fait une émission en hommage à sa disparition à la télévision, où j'avais Bernard Allaire, Sim, Raymond DeVos et son fils. Que j'ai produit Pascal, qui était venu me voir.
Ah oui, il avait enregistré un disque.
Voilà, il avait enregistré un disque de piano. Et puis, il était venu me voir en me disant, ben, j'aimerais bien que tu me produises. Mais je dis, mais pourquoi à Paris, il y a 20 producteurs qui vont avoir envie de te produire le fils de Fernand Reynaud. Pourquoi tu viens me voir, moi, à Genève? Il m'a dit, parce que mon père t'aimait bien.
Je suis un cantonnier, le cantonnier bucolique. Et lorsque j'ai fini mon labeur, vers les 3 heures de l'après-midi, j'entends cette musique douce, cette petite musique de piano que j'entends dans le lointain. Et la libellule, au bord du lac qui s'est mis sur le roseau. Et la libellule qui s'est posée sur le roseau et qui tout bas, tout doucement, dit au bourdon, j'aime la nature, j'aime le vent qui me porte. Et la libellule tout bas dit au bourdon, bourdon, j'aime le vent. Caché dans le lointain, là, derrière ces rideaux, mais nous avons remarqué que vous avez une dextérité de doigts. Vous faites du piano, du classique.
Oui, ça m'arrive aussi.
Ah, ça vous arrive aussi. Mais quel est votre nom, monsieur?
Alain Morisseau.
Alain Morisseau. Je crois que... Quel âge vous avez?
22.
22 ans. 22. Puis on m'a dit aussi que vous composiez quelquefois.
Oui.
Vous avez, oui, ouais, mais c'est pour eux qui crachent pas une médaille. Parce que je crois que vous avez composé une musique. Vous êtes de quelle nationalité?
Suisse.
C'est bien ce que je disais. C'est votre année, année suisse.
Les archives du rire.
Fernand Reynaud, il avait un comique universel, c'est-à-dire qu'on pouvait rire au premier degré pour les grimaces, pour l'aspect très premier degré de ses spectacles, de ses sketchs, et puis également on pouvait rire au deuxième degré pour ce qu'il y avait en fait, la petite philosophie qu'on pouvait tirer de chacun de ses sketchs. Et c'était quelqu'un qui faisait l'unanimité. Un fait marquant au Casino Théâtre, il y avait 550 places, on jouait 10 jours, c'était évidemment complet tous les soirs, et il y avait un strapontin à l'envers, c'est-à-dire que quand on est assis sur le strapontin, on regardait au fond de la salle. C'était en fait le strapontin réservé aux pompiers de service. Et ben, quand c'était Fernand Reynaud qui jouait au Casino Théâtre, le strapontin était toujours loué.
C'est incroyable, je pense, d'avoir accompagné Fernand Reynaud pendant 2 ans. Est-ce que chaque fois, il peut rester un souvenir d'un spectacle de Fernand Reynaud?
Ben oui, parce que d'abord, il jouait énormément avec le public. En plus, il était très, je dirais, quelque part un peu chiant quand même, il faut bien le dire, comme souvent les comiques, parce que c'est des gens qui sont fragiles, qui sont vulnérables. Donc, il ne supportait pas, par exemple, que les gens arrivent en retard. Ça, c'était une chose. Dès qu'il voyait une place vide, il disait aux gens, écoutez, alors la place vide, là, dès que la personne va arriver, je vais faire comme si j'essayais d'attraper des papillons. et vous allez être sûr que la personne va se pencher vers l'autre en lui disant qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fait, tout. C'était exactement ça. Alors dès que la personne arrivait, tout le théâtre rigolait parce qu'on savait déjà, on voyait Fernand Reynaud qui arrêtait n'importe où son sketch puis qui faisait comme s'il attrapait des papillons parce qu'il savait que la personne allait lui demander. En plus, il avait horreur des gens qui gardaient leur manteau sur leurs genoux. Il avait horreur que quelqu'un mange un bonbon. Alors ça, c'était sa folie. Hein, il venait vraiment malade. Il descendait dans la salle, il disait maintenant ça suffit. Et puis en plus, un truc de Fernand Reynaud qui était extraordinaire, c'est qu'il avait une liste avant chaque spectacle, il s'écrivait les sketchs dans l'ordre du spectacle. Et au lieu d'avoir une liste tapée, chaque soir, il se l'écrivait lui-même. Et chaque fois qu'il sortait de scène, il barrait le sketch qu'il venait de faire parce que ça lui est arrivé des fois de faire deux sketchs dans le même spectacle. Et vraiment, c'était aussi, dès qu'il voyait que les gens se marraient, il disait, mais je vous l'ai déjà dit. Enfin, il avait une complicité extraordinaire avec le public. Et puis, moi qui étais derrière, qui était le petit pianiste dans mon coin, je dois dire que j'ai beaucoup volé de, justement de son feeling. Parce que quand vous êtes spectateur tous les soirs, et puis spectateur privilégié, je dirais même, parce que vraiment, il a été super sympa avec moi. Ce métier-là, on ne l'apprend pas, on le vole. On voit des choses qui nous plaisent, on se dit, tiens, si un jour ça m'arrive, moi, je vais faire comme ça. Par contre, ça, j'aimerais pas faire ce genre de truc. Puis pour finir, c'est votre bagage, c'est la meilleure école, quoi. C'est d'être derrière les autres et puis regarder comment ils font.
Durant plus de 30 ans, Maryse était l'une des voix d'Europe 1. Elle a été aux côtés de nombreux humoristes, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Bourville, Coluche, Les Inconnus et donc Fernand Reynaud. Maryse est l'épouse de Philippe Gildas. Je la rencontre dans les studios d'Europe numéro 1 le 18 novembre 1988. Elle me parle des émissions qu'elle préparait parfois en vitesse avec Fernand Reynaud.
Ah, Fernand, c'était quelqu'un de très particulier. Fernand était quelqu'un de très, très profond, un peu brisé, un peu très difficile de caractère. On pouvait dire ça et en même temps tellement, tellement touchant, tellement, puis tellement drôle surtout. Oh, il arrivait au café à côté là, d'Europe 1. Le matin, à 7h30, il commandait un onglet échalote, alors qu'on commençait à 9h, et il y avait des nappes en papier. Il écrivait ses sketchs, il griffonnait ses sketchs sur la nappe en papier, et il me disait, bon, alors toi tu dis ça, il rayait des trucs, il remettait des flèches, il redescendait des flèches, il remettait des mots partout. Et on lisait ça comme ça, parce qu'on n'avait pas le temps de taper, parce que c'était au dernier moment qu'il avait écrit ça.
Il y avait une grande part d'improvisation dans ses émissions.
On aurait pu croire, et en même temps, c'était très travaillé. Oui, c'est ça, hein, mais il y avait une telle force comique que qu'on riait à chaque fois, quoi.
Mademoiselle, c'est vous, la nouvelle infirmière ?
Oui, c'est moi, docteur, oui.
Il faut que je vous mette au courant des habitudes de la maison.
Alors, je vous écoute, docteur.
Alors, dans la salle commune, au pied du lit de chaque malade, il y a des indications en code qui indiquent l'affection dont souffre le patient.
Des indications en code ?
Oui, c'est codé.
C'est codé, oui.
Voilà. Alors, il est inutile d'inquiéter le malade, vous comprenez ?
Oui, docteur.
Comme ça, il ne sait pas bien ce qu'il a.
Je comprends, oui.
Alors, voilà. Alors, venez avec moi, tenez. Oui. Vous avez compris, c'est simple. Oui. Venez avec moi là, dans la grande salle.
Je suis.
Ne vous fatiguez pas. Tenez. Par exemple, celui-ci, là, vous voyez, au pied de son lit, il y a écrit CP.
CP. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, congestion pulmonaire. Voilà, et celui-ci, il y a CN.
CN, oui.
Colique néphrétique.
Très bien, d'accord.
Et celui-ci, KP.
KP.
Kyste au pylore.
Oui. C'est ce que j'ai compris.
Voilà, vous avez pigé.
Docteur, ce malade-là, à gauche, il y a écrit DSLS.
Ah, DSLS. Ah, mais lui, c'est spécial, lui.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
DSLS, Dieu seul le sait.
Je disais, toi, papa, tu es un comique. Il dit, non, j'essaye, après 20 ans de métier. Et de succès, j'essaye de faire rire. Et c'est vrai, on essaye toujours. On essaye de vendre un produit. On essaye de courtiser une femme. On essaye, voilà.
Je n'ai jamais pensé à autre chose qu'à mon métier. Exclusivement, rien d'autre. Casse. Je suis marié, puis j'ai un petit garçon qui s'appelle Pascal. Mais notre métier, nous y pensons constamment. Nous sommes obnubilés par notre métier. Les soirs, au lieu de terminer à minuit, quand ça s'est terminé à 1h25, parce que les gens gueulaient une autre, eh bien on est content. Alors là, ça récompense de tous les soucis qu'on se fait. On aime se faire briller. Alors on est content de faire rire. On ne peut pas faire rire tout le monde. Non, franchement, Nous, on essaye de faire rire comme ça, puis c'est tout. Il n'y a pas de problème derrière. Moi, je raconte des histoires qu'on raconte souvent dans les bistrots, quand on a l'heure de l'apéritif. Et au lieu de les raconter devant un zingue, devant un bar, ben, je les raconte sur scène. ça va pas plus loin.
Nous venons d'entendre la voix de Fernand Reynaud, un document RTL qui accompagne une grande encyclopédie, le Panorama mondial, paru aux éditions académiques de Bâle. C'est la fin de cette émission consacrée à ce comique qu'était Fernand Reynaud. Avec nous dans ses archives du rire, il y avait Pascal Reynaud, son fils, Roger Pierre, Jacques Canetti, Maryse à Europe 1 et Alain Morisot, rencontré à Genève, Montreux, Paris entre 1988 et 1994. Sans oublier une petite discussion avec Rissé Barrier, Claude Selva, Bob Barbet, Jacques Ferry, dans une émission que nous avions enregistrée dans le studio d'Alain Morisot dans les environs de Genève en 1989. Retrouvez cette émission sur la page des Archives du Rire. On vous glisse également cet extrait de spectacle de Fernand Reynaud avec Alain Morisot. À très bientôt pour poursuivre ce voyage dans les Archives du Rire. Au revoir.